Entretien du 31 janvier 1980. Il n'existe aucune entité qui fasse quoi que ce soit dans cet univers manifesté. Il n'a pas eu de créateur. Tout se produit spontanément. Que rien ne vous empêche de vous livrer à vos activités familiales, professionnelles ou sociales. Faites ce que vous avez à faire avec dynamisme et de votre mieux. Mais découvrez, comprenez au moins ce que vous êtes. Vous prendrez alors graduellement conscience qu'en tant qu'agissant, vous ne relevez d'aucun lieu ni d'aucune forme. Tout mouvement tangible et perceptible, quel que soit son domaine, se produit sans aucune raison spécifique. Les événements arrivent. Les différents niveaux du monde fonctionnent, vibrent, tournoient, bourdonnent, sans dessein particulier, sans intention. Mais vous prédominez toujours, sans aucune identité avec un nom ou une forme quelconque. Quel que soit ce principe, défini et identifié par une forme illusoire, un nom et un corps, il se soutient de lui-même. Il se crée et il se nourrit de lui-même. Mais un jour, il lui faudra disparaître. Comprendre l'ensemble de ce phénomène s'appelle connaissance. Krishna a parlé de lui-même en tant que soi suprême, le niveau le plus haut. D'autres en ont parlé, mais ils se sont laissés entraîner par les formes, les mots, et se sont trouvés piégés par leurs propres concepts. S'il m'arrive de penser, ce ne peut être qu'à l'échelle de la manifestation et de son développement spontané. Je ne peux pas être effleuré par l'idée de changer quoi que ce soit au cours de la manifestation. Vous, lorsque vous pensez, c'est toujours au niveau individuel. Vous ruminez vos problèmes personnels. Rien n'est à faire. Découvrez seulement comment cette trace de « je suis » a pu se dresser en vous. Visiteur. Quand je parle, il n'existe aucune impression que je sois en train de parler. Maharaj. Vous parlez à partir de l'idée que vous avez de vous-même. Quel est le support de cette identité? Visiteur. Support? Les mots sortent simplement? Maharaj. Lorsque vous parlez, dépendez-vous de votre existence ou de l'existence de quelqu'un d'autre? Visiteur. De ma propre identité? Maharaj. L'être de ce moi est de courte durée. Vous devez percevoir que celui qui fait l'expérience de ce « vous » est un principe d'existence constant. À partir de quelle identité allez-vous parler? Visiteur. Comme je n'éprouve aucun désir ou besoin de parler, cela ne provient pas du premier. Visiteur. Je veux une réponse précise à ma question. Pardon, Maharaj. Je veux une réponse précise à ma question. À quoi rime cette formulation compliquée? Je répète, parlez-vous en vous situant dans l'être de courte durée ou dans l'éternel? Visiteur. Aucun je personnel ne parle. Maharaj, ne me dites pas cela. Je vous accuse d'être seul à parler. Alors, le faites-vous à partir du niveau temporaire ou du niveau permanent? Visiteur. Pas du niveau temporaire. Maharaj, vous ne dites pas la vérité. Visiteur. Mon expérience est qu'aucun je ne parle. Lorsque vous dites que je, la personne, suis en train de parler, ce n'est pas vrai. Maharaj, je vais vous flanquer dehors. Dois-je commencer par vous enseigner ABCD? Lisez le livre Je suis. Réfléchissez. Méditez sur ce livre avant de venir ici. Devrais-je recommencer mes explications avec chaque nouveau venu? Qu'était ce je, J-E, avant l'apparition de l'être? Comment, pourquoi cet être est-il apparu? Vous n'avez à obtenir de réponse que sur ces questions. Visiteur. je suis les instructions de mon maître. Tout ce qui est acquis est lié au temps, donc sans réalité. Visiteur, Maharaj, n'importe qui peut en dire autant. Ce que je veux savoir est comment sont apparus ce corps et cette conscience. Visiteur, je n'ai pas à décider ce que j'ai à dire ou ne pas dire. C'est ce qui m'habite, quoi que ce soit, qui s'exprime, pas moi. Maharaj, personne ne décide. Vous pouvez préparer un magnifique discours et au dernier moment ne plus vous en rappeler. Le sens du « je suis » est une chose énorme, mais ce qui lui est supérieur est de demeurer présent à cette seule sensation d'être, de rester continuellement avec ce sentiment du « je suis », à la suite de quoi tout le reste se produira. Au commencement, cette mémoire « je suis » n'est pas, et soudainement, elle apparaît. Je vais vous donner un enseignement spirituel appelé Nirupon. En marathi, le mot Nirupon signifie « message ». Pour vous exposer un message spirituel, le message primordial « je suis » est donc nécessaire. Tout ce qui ensuite se dégagera de ce message primordial sera parole spirituelle. Ce message fournit des informations sur celui qui écoute. Pour transmettre ce message, le « je » absolu assume l'état « être ». Considérez un émissaire du gouvernement. Il vous apporte un message du gouvernement, mais il n'est pas le gouvernement. Il remplit simplement ses fonctions de serviteur du gouvernement. Certains prophètes affirment être les messagers de Dieu. Mais Krishna ne dit pas cela. Il déclare catégoriquement, deux points ouvrez les guillemets, de moi surgit l'ensemble de cette création, mais je suis à part. Tout ce qui est créé surgit de moi, brille comme les feux d'artifice et s'éteint. Mais je prédomine éternellement. Fermez les guillemets. Il existe plusieurs façons d'exposer cette spiritualité. Je n'ai pas appris par cœur les opinions spirituelles de quelqu'un d'autre pour vous les réciter. Le point essentiel à comprendre est comment et pourquoi ce sens de « je suis » est apparu nanti du titre de naissance. Qu'étais-je antérieurement à ce sens du « je suis » ? Bien rare est celui qui peut le comprendre. Sankaracharya et Ramana Maharshi ont tous deux clairement expliqué cet aspect de la spiritualité. Comment suis-je je éternel et comment suis-je je minuscule investi dans le temps et l'existence ? Il suffit de comprendre cela, c'est tout. Mais la grande moule maya, la racine de l'illusion, vous égare en vous inculquant la conviction d'avoir déjà subi des millions de naissances. Et vous, ignorants, ne remettez jamais cela en question. Avant d'être né, vous ne possédiez aucune notion d'existence. Vous ne disposiez d'aucun « j'ai été » et encore moins de l'expérience de naissance antérieure. Peut-on sérieusement croire à de telles histoires ? Vous êtes sûr d'être né et d'avoir connu d'autres naissances, n'est-ce pas ? Oui. Mais de quoi êtes-vous fait ? Et comment ? Tant que vous n'aurez pas prêté attention à cela et trouvé la réponse, vous ne pourrez pas vous libérer de ces concepts de renaissance ou d'autres. Il y en a également dans les quatre Védas qui ont fait emboîter le pas à plus d'un. Lorsque je concentre mon attention sur le moment du réveil, les Védas joignent les mains en signe de soumission et font silence. Pour comprendre ce processus, considérez d'abord la substance cosmique et l'esprit cosmique, les deux principes éternels. À la suite de leur interaction, émergent les cinq éléments primordiaux et les trois attributs, harmonie, énergie, inertie. Ils forment la terre vierge, mais prête à tous les développements futurs. Sur la terre pousse la végétation, et lorsque les sèves prennent la forme humaine, le principe de l'être, jusque-là en sommeil, se révèle. Les cinq éléments ne possèdent pas le moindre soupçon de conscience d'être. L'être, se manifestant sous la forme humaine, est l'aboutissement de la quintuple essence des éléments, et ce principe éternel, ne connaissant pas son existence, se manifeste alors par l'intermédiaire de millions de formes différentes. Plus tard, au niveau humain, apparaissent les lois, règlements, rituels, définitions, etc. Avant la naissance, ni les parents, ni ce principe ne se connaissaient. Ce principe, sous la forme fluide, est planté dans le ventre de la mère et prend en 9 mois la forme d'un enfant, lui-même dépositaire de la graine de toutes les expériences futures. Cette graine être est pur principe d'existence, quintessence du corps de nourriture et constituée d'ignorance. La graine des expériences futures se nomme destinée. Cet enfant infortuné, qui avant sa naissance demeurait paisiblement en dehors de cet univers de la connaissance, est maintenant gratifié de toute une gamme d'expériences et de souffrances. À l'instant de sa conception, la photo exacte de la situation du cosmos dans sa totalité, comprenant l'état des parents à partir desquels il a été créé, la position des planètes, celle des étoiles dans l'immensité, etc., a été imprimée en lui. Quel est le principe qui prend la photo? Ce principe suprême est désigné sous le nom de lien du suprême, racine de l'illusion, l'essence suprême, le soi cosmique, amour du suprême, etc. L'essence suprême signifie qu'il a une signification suprême et qu'il peut être également appelé Christ, Krishna, Shiva, Vishnu. Il est également appelé océan de vie grouillant de millions de formes. Krishna dit qu'au travers de ce lien de l'illusion, le principe suprême applique toutes les fonctions universelles tout en demeurant, lui, absolu, en dehors de ce jeu. J-E-U. Le manifesté, dans son ensemble, est chargé d'énergie et lié au lien de l'illusion par le lien de la puissance créatrice. Cette énergie n'est pas totalement manifestée dans le ventre de la mère. Donc, rappelez-vous, ce sens de soi, ce vous-même, apparaît spontanément et non sollicité. Combien de temps va-t-il durer? Il comporte en lui-même sa date d'expiration. Il ne peut pas échapper au temps. Un sage réalisé est appelé ainsi parce qu'il a compris la racine de l'être uniquement composée d'ignorance. Le sachant, il ne s'implique pas dans les actions de cet être et ainsi le transcende. Il observe l'émergence, la maintenance et la disparition de ce principe. Il est le témoin, celui qui connaît le rôle de cet être nommé destiné. Cet être demeure à l'état latent pendant les premiers jours qui suivent la naissance. Ensuite, il s'identifie à cette forme qui se développe en accord avec l'image des parents imprimée en elle au moment de la conception. L'être maintient son existence en tétant jour et nuit ce petit réservoir d'essence de nourriture « je suis, je suis, je suis ». Le principe tétant ce réservoir n'est donc pas le corps. Il est distinct du corps. Il y habite simplement. Et comme un enfant se maintient en vie en tétant sa mère, l'être se nourrit en tétant le corps. Vous désirez vous connaître, n'est-ce pas? C'est une recherche qui demande du sérieux. Pour devenir un sage réalisé, il faut savoir de quoi vous êtes fait. Savoir ce qu'est ce contact avec soi-même, exprimé par « je suis », et la manière dont il est apparu. Quel était l'état précédent de « je suis », cet état véritable ? Seul Krishna a véritablement répondu. Puisque le je suis apparaît et disparaît, je, absolu, ne peut pas être lui, car je prédomine toujours. Mon en soi suprême m'a dit, en dépit de vos activités quotidiennes, vous n'êtes pas né. Vous demeurez à l'écart de tout cela. Fermez les guillemets. Vous pouvez donc tous devenir sages réalisés, à condition que vous compreniez ceci. L'être est une résultante du corps, lui-même réservoir d'essence de nourriture. L'être fonctionne de lui-même et disparaît quand la qualité de l'essence de nourriture n'est plus à même de le nourrir. Au cours de ce processus de compréhension, réalisant que vous n'êtes pas l'être, vous vous fixez au niveau sage réalisé. Il y a eu tant d'incarnations revendiquant le statut spirituel le plus haut. Toutes ont été piégées par des définitions, des concepts extérieurs, adoptés d'après le discours de quelqu'un ou trouvés dans les livres. Pour poursuivre une activité, qu'elle soit spirituelle ou matérielle, les mots sont indispensables. Un sage réalisé, ayant transcendé tous les concepts, devient sans mots. Les mots sont devenus silence dans la quiétude du sage réalisé, parce qu'en répétant « je suis ni ceci, ni cela », les Védas ont totalement épuisé les mots jusqu'au Vedanta, la fin des mots. Je vous ai suffisamment parlé de Parabdha, la destinée, et de ses expériences. Pourquoi et comment elles ont été créées ? Maintenant, où êtes-vous au sein de cet immense spectacle ? Où vous localisez-vous ? Quelle est l'identité que vous aimeriez préserver ? Pourquoi le contact avec ce qui est-il continuellement présent depuis votre enfance ? Vous avez eu, à une certaine époque, l'identité d'un jeune enfant et de ses jeux, puis d'un adolescent et de ses emballements, puis d'un adulte et de ses soucis, enfin celle d'un vieillard. Alors, laquelle de ces différentes entités est la vraie ? Allons plus loin. Il n'existe aucune évidence que vous soyez né. Visiteur, je ne pense à aucune identité. Dans mes expériences, le sens de « je » diminue. Il n'y a qu'attention et objet de l'attention. Quand l'attention se porte sur « je suis », cette impression « je » diminue. Maharaj, lorsque votre attention se porte sur « je suis », ressentez-vous vos sensations physiques ? Visiteur, quand mon attention ne se porte pas sur « je suis », tout est parti. Mais lorsque mon attention est forte, tous les objets sont perçus. Maharaj, mais votre attention est-elle stable ? Visiteur, oui. Maharaj, alors pourquoi êtes-vous ici ? Visiteur, l'expérience n'est pas continuelle. Maharaj, si vous êtes fermement stabilisé, cela ne peut être que continu pour toujours. Visiteur, ce n'est stable que pour un moment. Maharaj, qui est témoin des deux états, celui de l'attention pure et de l'attention impure ? Visiteur, peut-être l'observateur, l'attention. Peut-être quelque chose constate l'attention ? En tout cas, ce n'est pas moi qui parle. Maharaj, qui est attentif à tout ceci ? Vous ou quelqu'un d'autre ? Visiteur, la vérité le sait. Maharaj, il vous faut étudier cela avec plus de précision. Méditez aussi souvent que possible. Plongez-vous dans le samadhi pendant des heures. Visiteur, mon esprit est immobile, mais attentif. Je regarde ce « je suis ». Maharaj, Vous approchez du stade de la connaissance, mais encore faut-il parvenir à destination. Cela n'est possible que lorsque l'attention se fond dans l'attention. Si elle était bandée au point de se dévorer elle-même, vous n'auriez pas eu à venir ici. Visiteur. Oh, je vois, il faut dévorer l'attention. Maharaj. Oui, actuellement, vous stagnez au niveau de l'attention. Elle doit être totalement consumée. Vous me parlez à partir du niveau « je suis » lié au temps et donc transitoire. Un autre visiteur. Peut-il exister une attention sans objet ? Maharaj. Une attention sans objet sur lequel se fixer ? Si l'attention est présente, l'objet est nécessairement présent. Visiteur. Lorsque l'attention et l'objet s'effacent, atteint-on le samadhi, l'état d'unicité ? Maharaj. Qui est susceptible de le savoir ? Visiteur. Vous me présentez un appât. Maharaj. N'affirmez de choses que sur vous-même. Un autre visiteur. Lorsque quelque chose s'introduit dans mon attention, je suis attiré vers un objet. Ma tranquillité d'esprit est troublée, mais le sens de je suis est ressenti. À ce moment, mon esprit est orienté vers l'objet de telle façon que l'objet et le je suis apparaissent en même temps. Maharaj. Vous me semblez parler à partir du niveau corps-intellect. Je parle ici de l'état non-intellectuel. L'intellect est actif tant que l'identification au corps se prolonge. Lorsque cette identification au corps cesse, où est l'intellect ? État de veille, sommeil et être-té sont dénommés naissance. Il ne s'agit que d'une phase temporaire. Visiteur. Mais ne dois-je pas étudier le corps-intellect à partir de son propre niveau pour le connaître ? Maharaj. Suis-je un enseignant de jardin d'enfants ? Dois-je commencer à vous enseigner l'ABC qui correspond à l'état corps-intellect ? Ce dont je parle commence à Parabdha, le réservoir des vies passées qui devient la destinée dans la vie présente et la racine de l'être. Je ne m'occupe pas du corps-intellect. Cela suffit. Je répète ce dernier paragraphe. Suis-je un enseignant de jardin d'enfants ? Dois-je commencer à vous enseigner l'ABC qui correspond à ce corps-intellect ? Ce dont je parle commence à Parabdha, la destinée, et la racine de l'être. Je ne m'occupe pas du corps-intellect. Cela suffit. Fin de l'entretien. Le mot Parabdha se traduit par « réservoir des vies passées » qui devient la destinée dans la vie présente. Fin de l'entretien.